Le journal Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. L'Est de la France a basculé dans le couvre-feu à 18h. 15 départements et 6 millions de Français sont concernés par cette mesure. Ce couvre-feu renforcé, à peine appliqué, est déjà très contesté. La vaccination contre le coronavirus prend un peu d'avance sur le calendrier officiel. La campagne doit démarrer lundi pour les soignants de 50 ans et plus. Mais on vaccine déjà dans les hôpitaux parisiens. Reportage dans un instant. De la fête au cluster après la rave partie sauvage de Lyon en Ille-et-Vilaine. Les participants à la fête sont invités à se faire tester et à s'isoler. Plus de 1200 personnes ont été verbalisées. Dans ce journal également, le cri de joie, vous l'entendrez, de Yannick Bestaven, premier à franchir le Cap Horn dans le Vendée Globe. Et puis notre rendez-vous avec Christine Siméon et ma vie connectée avec ce soir des smartphones éco-responsables. La météo, temps instable et froid, giboulée et grisaille et neige pour demain. Jean-Pierre Hameau à la fin de cette édition.
France Inter.
Il faut corriger cette impression, rattraper ce sentiment de démarrage poussif. Le gouvernement a donc pris la résolution ce début d'année d'accélérer la campagne de vaccination. La vaccination contre le coronavirus qui doit officiellement démarrer lundi pour les soignants de 50 ans et plus a finalement pris un peu d'avance. Le coup d'envoi a été donné hier à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Et depuis ce matin, la vaccination a également démarré à l'Hôtel Dieu à Paris. Reportage Solène.
Pour le symbole, elle a tenu à être l'une des premières à se faire vacciner.
Vous avez une maladie particulière qui pourrait interférer avec le vaccin ?
Aucune maladie particulière.
Le professeur Claire Poyard est la représentante des médecins de l'Hôtel Dieu.
Et on vous pique du côté gauche.
On y va ?
Quelques secondes de piqûre.
On sent même pas la piqûre.
Dans ce box du service des urgences qui sert pour le moment de centre de vaccination improvisé.
J'ai des enfants qui ont fait le Covid et j'ai aussi des parents qui sont morts du Covid. Donc c'est une maladie qui est gravissime et il faut se faire vacciner. Et je suis là pour promouvoir cette vaccination qui est la seule façon de s'en sortir.
Une fierté d'être vacciné parmi les premiers, un geste militant. Le docteur Jean-Paul Viard supervise l'opération. Pour lui, il était important d'accélérer le processus, de proposer le vaccin non seulement aux résidents d'EHPAD, mais aussi désormais aux soignants de plus de 50 ans.
Si vous voulez des soignants dans les hôpitaux, il faut qu'ils soient protégés. Il y a eu dans beaucoup de services hospitaliers un nombre important de personnes malades et ça a beaucoup handicapé la prise en charge.
L'assistance publique Hôpitaux de Paris a choisi de vacciner ici ses personnels soignants de plus de 50 ans, mais aussi des libéraux, médecins, infirmiers ou encore kinés de ville. Pourtant, leur tour n'était prévu que dans quelques semaines. Il y a en tout 1 200 000 soignants de plus de 50 ans en France, 1 200 000 donc concernés par cette première phase de vaccination.
Solène Nehen à l'Hôtel Dieu à Paris est face à une situation sanitaire qui se dégrade. Un couvre-feu renforcé est donc en vigueur depuis un peu plus d'une heure maintenant dans 15 départements. 6 millions de Français sont ce soir en zone rouge, sous couvre-feu dès 18h. Certains élus réclamaient des mesures plus fortes et ce soir, à peine appliquées, le couvre-feu allongé est déjà très contesté. David Lisnard, par exemple, le maire de Cannes, dans les Alpes-Maritimes, explique que selon lui, ce couvre-feu renforcé n'était pas la chose à faire.
À partir du moment où les restaurants sont déjà fermés, où les lieux de regroupement sont interdits, etc., c'est une mesure qui n'a aucune conséquence sanitaire et qui a en revanche des conséquences extrêmement négatives sur l'économie, sur le social, sur la capacité d'aller faire du sport en plein air, etc., etc. Autant un confinement, même s'il est catastrophique sur le plan économique, on comprend un confinement rigoureux qu'il bloque des chaînes de contamination, autant cette mesure-là est totalement inutile, il n'y a pas un seul argument. Au contraire, on va regrouper encore plus de monde dans les transports en commun aux mêmes heures, les plages d'ouverture des commerces seront réduites, mais on ne réduit pas les lieux d'interaction, donc on va encore plus concentrer la population au détriment de la lutte contre la maladie, et puis on ne parle pas de ce qui est nécessaire. C'est-à-dire le nécessaire, c'est le respect des gestes barrières, évidemment, c'est la vaccination, c'est les mesures de protection individuelle.
David Lisnard, le maire de Cannes, avec Jules Dequis. Après la rave party clandestine en Ille-et-Vilaine, les fêtards sous surveillance, 7 personnes sont en garde à vue, dont les 2 organisateurs présumés de la fête. Par ailleurs, 1225 personnes ont été verbalisées pour des infractions Covid, pas de masque, non-respect du couvre-feu. 420 autres procès-verbaux ont été établis pour des infractions diverses, dont 225 en lien avec les stupéfiants. Ce soir, les 2500 participants à cette fête sauvage sont invités à s'isoler et à se faire tester. Guillaume, 24 ans, un participant à la fête, reconnaît que ce rassemblement a pu scandaliser des gens. Guillaume, avec Evan Le Bastard.
Je comprends amplement, mais après, on a passé une année qui n'était pas terrible. On avait juste besoin d'un soir pour souffler, pour voilà, kiffer un peu, quoi, parce que c'est vrai qu'on n'est pas sorti du tout de toute l'année, et je pense qu'on avait besoin de ça, en fait. On sait tous que pendant une semaine ou deux, on va devoir faire super gaffe, on va éviter de voir nos grands-parents, parents ou autres, quoi. On le sait bien, on prend pas des risques bêtement, en fait, quoi.
Guillaume, un participant à la fête sauvage de Luron. Au Japon, le retour à l'état d'urgence est envisagé face à une forte augmentation du nombre de cas de contamination au coronavirus. Le gouvernement japonais consulte des experts sanitaires avant de prendre une décision. Ce matin, la métropole de Tokyo et trois autres préfectures japonaises ont jugé nécessaire le déclenchement de l'état d'urgence. Tokyo, Karine Nishimura.
Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, quatre gouverneurs représentant plus de 35 millions d'habitants se sont invités samedi chez le ministre chargé de la crise Covid-19, Yasutoshi Nishimura, pour lui demander de déclencher l'état d'urgence. Après 3 heures de discussion, le ministre a répondu.
Nous allons réunir notre comité d'experts au plus vite pour décider si nous déclenchons ou non cet état d'urgence.
Le gouvernement argue qu'on est en plein congé de nouvel an et qu'il faut bien analyser les données avant de décider. La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, semble davantage pressée.
Le virus n'a pas de calendrier. Il se moque que l'on soit en plein congé du nouvel an. Le point important est que l'État et nous, les autorités locales, fassions front commun et prenions ensemble des mesures efficaces.
Les médecins appellent au secours depuis plusieurs semaines déjà car les hôpitaux refusent des patients victimes d'autres pathologies afin de garantir des lits Covid-19. Mais même ainsi, les places vont manquer, prévient l'association médicale de la capitale. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
Et aux États-Unis, le Congrès américain lâche Donald Trump et repousse son veto sur le budget de la défense, une humiliation inédite infligée au président sortant par le Sénat. Les sénateurs républicains se sont prononcés avec les démocrates contre le président américain en adoptant le budget que Donald Trump contestait. C'est un revers majeur pour le président sortant, Loïc Louis.
Depuis le début de sa présidence, Donald Trump a utilisé son droit de veto à 9 reprises. Jusque-là, le Congrès n'avait jamais réussi à atteindre la majorité des 2/3 pour passer outre. C'est donc chose faite, 3 semaines avant le départ du patron de la Maison-Blanche. Lors d'une séance exceptionnelle au Sénat, républicains et démocrates, c'est rare, ont voté presque d'un seul bloc pour valider ce budget défense de 740 milliards de dollars. Résultat, 81 voix contre 13 et un veto présidentiel renversé pour Donald Trump. Le camouflet est terrible. Le président assure que le texte est trop favorable à la Chine. Il critique aussi une disposition permettant de renommer les bases militaires qui honorent des généraux confédérés. Mais les élus républicains n'auront pas suivi le président dans sa dernière bataille. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à reconnaître la défaite de Donald Trump lors de la présidentielle du 3 novembre. L'intéressé lui assurait encore hier l'avoir emporté et largement. New York, Loïc Loury, France Inter.
En France, aujourd'hui à Paris, manifestation contre le mal logement. À l'appel du DAL, les associations du droit au logement et plus de 300 personnes ont réclamé la réquisition des logements inoccupés. Bonsoir Mathilde Huimy.
Bonsoir Frédéric.
Et les manifestants se sont d'abord retrouvés devant le ministère du Logement.
Oui, une première étape au ministère du Logement pour finir cette manifestation devant un immeuble en face de la gare Saint-Lazare. Des plaques de bois remplacent certaines vitres sur les 6 étages de l'immeuble. 6000 m² inoccupés depuis 20 ans appartenant à des sociétés immobilières belges et luxembourgeoises. Sophie, mal logée dans une chambre de bonne, s'imagine vivre ici.
Il est pas mal, j'aurais bien aimé être en dernier étage, j'ai un super balcon, une belle vue. Ça c'est qu'un rêve, hein. C'est que du rêve. Hein. Surtout qu'à une époque je travaillais pas très loin, donc c'est sympa comme quartier.
Elle habite depuis des années à Saint-Mandé, dans un logement frappé d'arrêté d'insalubrité.
Dans des conditions abominables, tout ce qui est canalisation c'est insalubre, c'est bouché, faut pas prendre de douche. Je mets un seau, et une fois qu'il est plein, je vis dans les toilettes sur le palier. Et il y a l'électricité qui est pas sécurisée, qui est insalubre aussi, donc je fais attention.
Pour loger Sophie et les milliers d'autres, droit au logement voudrait que l'État réquisitionne les logements vides, comme le permet une ordonnance de 1945. Jean-Baptiste Hérault, le porte-parole du DAL.
Un logement, c'est fait pour être habité, c'est pas fait pour spéculer. Donc la mesure de réquisition est une mesure temporaire, une décision du préfet renouvelable tous les ans, en échange d'une indemnisation financière. Il ne s'agit absolument pas d'une expropriation.
Les dernières grandes réquisitions remontent aux années 90 sous Jacques Chirac, après pression du DAL. Et à l'époque, un millier de logements avaient été réquisitionnés, puis souvent rachetés pour en faire des logements sociaux.
Mathilde Dehimy, merci. Les hurlements de joie et de soulagement mêlés de Yannick Bestaven, le leader du Vendée Globe. Il a franchi le mythique Cap Horn cet après-midi, sans le voir, dans une mer démontée. On écoute la joie de Yannick Bestaven, témoignage recueilli par Vincent Pellegrini.
Cap Horn ! Ouais ! 2 janvier, il est 14h et Maître Coq vient de franchir la longitude du Cap Horn. Waouh! C'est la sortie des mers du Sud, même si le vent fort va encore m'accompagner quelques heures. On va pouvoir mettre bientôt le clignotant à gauche et remonter vers la maison. Well done! En tête au Cap Horn! Tiens! Regardez comme c'est beau! Dans une mer démonté avec 45 nœuds de vent et 8 mètres de creux. Parfait quoi, un vrai Cap Horn. À la bise à tous!
Voilà, Yannick Bestaven soulagé en tête de la course. Le classement n'a pas changé. Charlie Dalin est en deuxième position. Troisième du classement, Thomas Ruyant. Un résultat de rugby, la 13e journée du top 14. Victoire de l'Union Bordeaux-Bègles, 31-18 face à Toulon. Et puis le PSG, un nouvel entraîneur, c'est fait. Le club a officialisé l'arrivée déjà annoncée de l'Argentin Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur. Il succède à Thomas Tuchel. Mauricio Pochettino va donc entraîner le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméon et Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Et c'est une fois de plus sur votre smartphone que vous êtes penchée pour nous rappeler qu'entre en vigueur un règlement européen pour réguler l'importation des métaux qui composent nos téléphones portables.
Pour donner le ton, Frédéric, sachez que ces minerais et métaux, on les appelle les minerais de conflit et que la République démocratique du Congo est un des principaux pays concernés. Ce règlement vise donc les conditions de travail dans les mines où l'on extrait l'étain, le tungstène, le tantal et l'or. Des dizaines d'ONG alertent depuis longtemps sur ce qui se passe dans ces mines, comme l'explique Frédéric Bordage du groupe d'experts Green IT.
L'exploitation de ces mines s'effectue dans des conditions sociales tout à fait inhumaines, au point que finalement ces minerais des conflits aient pris le relais des fameux diamants de sang dont on parlait avant. Et donc ces 40 000 enfants esclaves, selon Amnesty International, en République démocratique du Congo, c'est du travail forcé, des déplacements de population, et donc en fait on est vraiment face à des exactions dignes de crimes contre l'humanité.
Et malheureusement c'est un vieux problème, Christine, cela va donc changer.
C'est un vieux problème, oui. L'Europe a 10 ans de retard sur les États-Unis en matière de réglementation. Est-ce que ça va changer ? Voilà ce que prévoit ce règlement pour les importateurs en Europe de ces métaux si précieux dans nos smartphones.
Ça va les obliger à fournir une preuve de la traçabilité de la provenance de ces métaux. Alors évidemment, on a tous l'envie, un peu comme on a de la nourriture certifiée sans OGM, de pouvoir acheter un smartphone ou un ordinateur qui soit certifié sans minerai des conflits. Alors clairement, ce règlement européen va nous permettre de tendre vers cette situation, mais nous n'aurons jamais la certitude absolue qu'il n'y a pas de minerai des conflits dans nos équipements électroniques, parce qu'on a une organisation finalement de la dissolution, de la traçabilité, de la responsabilité, qui fait qu'on n'aura jamais une certitude absolue.
C'est donc un bon début. Il revient à l'Union européenne de nommer désormais des enquêteurs indépendants sur place pour vérifier que tout se passe de manière responsable. Et puis je rappelle qu'il reste aussi encore à réglementer le travail dans les lieux d'assemblage des smartphones un peu partout dans le monde. Je vous rappelle d'ailleurs que les appareils de ce type, ordinateur ou autre, font plusieurs fois le tour du monde avant d'arriver dans notre poche.
Christine Siméon, merci, Ma Vie Connectée. L'article complet est à retrouver sur franceinter.fr. Le temps pour demain.
La météo avec Via Santé. La mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Pierre Hameau,
Demain, nous allons retrouver de faibles chutes de neige sous un ciel bien gris du Massif central à la région Rhône-Alpes et de la Bourgogne-Franche-Comté à la région Grand Est. Les sols seront souvent blanchis. Localement, on attend entre 1 et 3 cm. Prévoyez encore des orages en Corse, des averses sous un ciel variable des Bouches-du-Rhône aux Alpes-Maritimes, mais aussi le long des côtes de la Manche et de l'Atlantique. Partout ailleurs, après une matinée très nuageuse, le ciel sera plus lumineux l'après-midi. Côté température, les minimales au lever du jour seront généralement froides avec de fréquentes gelées. Les maximales évolueront entre 1 et 7 degrés. N'attendez pas plus de 1 degré à Nancy, Strasbourg et Ambérieu. À peine 2 degrés à Reims, Dijon, Lyon et Limoges. 3 à Orléans, 4 à Toulouse. Comptez 5 à Bordeaux, 6 à Nîmes et 7 à Marseille. Ça sera toujours un peu moins froid en Corse avec des valeurs voisines de 12 degrés. Ces conditions hivernales vont persister la semaine prochaine avec encore de la neige lundi et mardi. Intéressant le nord, la région parisienne et le nord-est.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.